France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Sur France Culture à 8h30 en ce dimanche matin, Jean-Luc Gadreau pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. C'est la troisième rencontre avec le pasteur Pierre Magne de la Croix, président du conseil synodal de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, pour cheminer sur les traces de l'apôtre Paul. Notre chroniqueur Vincent Smetana est aussi présent à cette table et tous ensemble, nous allons aborder ce matin une question fondamentale dans l'écriture paulienne, le sujet de l'identité. Bonjour Pierre Magne de la Croix.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, en forme, prêt pour aborder cette troisième thématique de l'identité ?
En forme.
Avec l'apôtre Paul, nous avons parlé donc d'esclavage, du rapport au pouvoir politique. Et puis ce matin, c'est l'identité, un sujet encore et toujours d'actualité d'ailleurs. Une question intime, personnelle, mais aussi politique, parfois sujet de rivalité, d'opposition. Et puis c'est une question universelle, très clairement. C'est le fameux « qui suis-je » qui est derrière.
Qui suis-je ? Qui êtes-vous ? Qui est Paul ? Et qui définit cela ? Et souvent, on se pose la question aussi, qui va me définir ou nous définir dans la fameuse identité nationale ? Et alors, se pose des questions, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui serait habilité, ou plutôt le ministère de la Culture qui définit une culture, un passé, un futur, ou l'éducation nationale, qui pourrait aussi définir, qui est chargée de transmettre le savoir, de former les plus jeunes et de préparer les acteurs de demain. Est-ce que c'est la grande bibliothèque nationale, les archives nationales, l'IGN, l'Institut géographique national, parce que l'identité, c'est aussi la géographie.
Un lieu...
Est-ce que c'est le guide Michelin ? Parce que l'identité, c'est aussi de la nourriture. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui construit le destin commun,
la culture aussi.
Les musiciens, des poètes, des écrivains, des comédiens, des artistes, des danseurs.
Voilà. Alors, juste en vous écoutant, là, on perçoit en fait une forme de tension entre identité au singulier et puis la multiplicité finalement des appartenances. Ce mot est déjà venu dans nos émissions précédentes, appartenance au pluriel, ce que nous avions souligné en particulier, je crois que c'était dans celle autour de l'esclavage, avec Onésime, avec la manière dont Paul écrit à Philémon et met plein de choses là, le concernant. Et concernant cet esclave.
Et ces appartenances multiples sont dans notre littérature et dans nos dessins animés. Si vous prenez les sept nains, sept c'est un bon chiffre, sept épatants. En fait, les sept nains ne seraient-ils pas une seule et même personne avec des appartenances ou des caractères différents, multiples
Ben oui, parce que les noms de des sept nains disent des choses.
Alors, vous êtes, je suis parfois Hatchoum. Je suis parfois prof, celui qui veut tout enseigner. Simplet, souvent je suis grincheux, dormeur de toute façon, timide, bien sûr, et joyeux. Voilà, je suis les sept à la fois, parfois plus l'un ou l'autre. Et puis, j'aime beaucoup aussi ce film Vice-versa, où la jeune Riley, alors elle a cinq appartenances ou cinq caractères, je vous rappelle, elle est parfois dans le dégoût, parfois dans la peur, parfois dans la joie, parfois dans la colère, parfois dans les tristesses.
Voilà. Et ces émotions à la fois collaborent et puis des fois se disputent aussi.
Oui, elles sont en tension, elles se... Mais c'est ça.
Et vous d'ailleurs ?
Ah ben moi, je suis français, provençal, d'origine d'Algérie, pieds noirs, européen de cœur, adoptif des Cévennes avec le Péardon, on va y revenir. On est multiples maintenant, je suis alsacien, Nichtfort, voilà.
Et Paul,
alors Paul, rappelons-nous, il est grand, il est connu, mais il va prendre un nom qui veut dire le petit. C'est intéressant, le petit poussé. Et Paul est quelqu'un aussi qui a des appartenances multiples. Il est né en Turquie actuelle, à Tars, en Asie mineure. Il a grandi en Syrie, à Damas. Il était de langue grecque. Il était citoyen romain. Il était de naissance et de religion juive, de foi chrétienne. Il est mort à Rome. Il se décrit comme un avorton, fils adoptif. Il déclenche un tremblement de terre en Macédoine. Il provoque une émeute à Éphèse, des éclats de rire, des moqueries à Athènes. Il était célibataire, 2-3 fois en prison.
Casier judiciaire bien rempli.
Voilà. Alors cela lui donnera une sensibilité particulière pour les prisonniers et les esclaves, mais peut-être une sensibilité réduite sur la place de la femme, peut-être. Il était voyageur.
Oui, c'était quelqu'un qui a fait d'innombrables voyages à cette époque. Voilà, c'est impressionnant.
Il restait pas en place, hein, ouais. Pas plus de 2-3 ans dans un lieu. Et puis il va savoir donner au message de Jésus-Christ, qui était un phénomène régional, hein. En gros, l'Alsace, il va lui donner une dimension internationale, universelle, une dimension théologique, et le traduire dans un autre langage qui nous parvient encore à aujourd'hui. Et puis, il était citoyen romain, c'est pas rien. Hein. Aujourd'hui, il vaut mieux être citoyen américain, on a un passeport qui a du poids, on est protégé. Mmh. Voilà, tout ça, c'est une grande multiplicité de Paul.
Alors on parle d'appartenance, oui. Là, avec tout ce que vous nous dites, notamment sur l'apôtre. C'est justement le mot que vous avez retenu, cher Vincent Smetana, pour votre chronique, toujours le mot pour dire.
Alors, essayons d'être clairs, on n'est pas un protestant, un juif, un musulman ou un catholique. On appartient seulement par une trajectoire, heureuse ou non, à un groupe qui partage certaines croyances, certaines habitudes culturelles, certains rituels, non ? La question de ce matin est... Son identité étant difficile à appréhender, quelquefois quand même, hein, ma question est légitime. Juif, grec, romain, cheval, biche, faisant qui est Paul ? Bon sang !
Cheval, alors par rapport à Paul, avec son histoire, on peut comprendre l'allusion, mais biche, faisant, qu'est-ce que ça veut dire ?
Non, c'était juste pour la rime, désolé. Okay. Mais donc, en observant Paul, je me pose la question quand même, hein, dans le genre bouleversement identitaire, il est pas mal, Paul, hein, entre être un vrai crapaud, et c'est le vrai mot hyper un vrai crapaud affairé à dézinguer tous les chrétiens qui passent, et sa brutale chute de cheval sur la nationale entre Jérusalem et Damas, grand écart, et c'est peu dire. Alors, comment concevoir les relations entre la notion d'identité, entendue comme ce qui constitue le caractère spécifique d'un individu comme Paul, vous, moi, elle, lui, nous, et l'ensemble des comportements, signes, représentations, valeurs et traditions qui nous distinguent consciemment les uns des autres? Comment? Dans quelle mesure l'identité a-t-elle besoin de la culture? Et là, je reprends l'intitulé formulé par votre invité, Jean-Luc. Voici, plutôt que d'identité, avec Paul, on parlera d'appartenance multiple. Juif, grec, romain, chevalier blanc, schtroumpf, troll. Non mais qui est Paul? Bon, ce qui semble ici déjà clair, c'est que l'identité gagne à être appréhendée par le biais de la notion d'appartenance culturelle. Alors convenons, si vous le voulez bien, de préciser de quelle manière elle gagne à l'être. Et là, je vais m'aider d'une réflexion du philosophe Thierry Mélissier qui souligne que cette notion d'appartenance culturelle, je cite, « permet de saisir la diversité et la complexité des traits caractéristiques de la culture, car elle comprend en effet, 1. L'insertion dans une communauté identifiée, 2. La reconnaissance du lien entre l'individu et sa collectivité d'existence sociale, 3. L'usage de traditions communes, ce qui a des effets très profonds sur la détermination d'une manière de se comporter, même sur celles qui paraissent les plus anodines, genre le goût des autres, genre Paul préfère-t-il un thé ou un latte double crème au petit déjeuner, est-il plutôt sweat basket ou cravate redingote, en plus du grec ou du français, parle-t-il, je ne sais pas, italien, swahili ou anglais, et 4. Le partage des valeurs, plus ou moins conscient ou explicite, à partir duquel se déploie l'expérience morale individuelle, aussi bien qu'intersubjective, genre qui est qui quand je dis Vincent, François, Paul et les autres, hein ? On le voit, l'appartenance culturelle est un phénomène complexe qui dépasse la seule accoutumance de la vie avec autrui. Juif, grec, homme de Rome, Colosse, Corinthe et Thessalonique, Philippe, qui est Paul. Appartenance, non féminin, fait d'appartenir, appartenir, transitif indirect ou pronominal du troisième groupe, être le droit, le privilège ou le propre caractère particulier de quelqu'un ou quelque chose, ce qui est moi ou à moi. Ceci dit, dans la société compliquée que j'habite désormais, aurait dit Paul, j'ai tôt compris que chaque saison exige son uniforme, et qu'il y a des styles et des modes et des mouvements, et que chacun s'y plie, et que si l'on veut appartenir, écrit Philippe Labreau dans L'étudiant étranger, il vaut mieux porter certaines cravates et certains tissus, certaines couleurs et certaines formes. et que là s'y lise l'identité. Aïe, 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 car l'identité est tirée du latin idem, qui est le même, c'est-à-dire qui est semblable à soi-même ou qui ne présente qu'une seule réalité malgré les approches différentes. Non. Alors qui est Paul ? Tout dépend donc de comment je le regarde, là qui je suis, vers lui qui il est. Majestueux principe biblique de l'altérité, car disons-nous ceci, mon identité s'esquisse, se trace, s'aiguise et se révèle au contact d'autres identités que la mienne, d'autres variantes de moi-même, non ?
Sans doute, on va le voir, on va l'entendre encore dans cette réflexion. Beaucoup de choses de dites là déjà qui nous conduisent vers la suite. Merci beaucoup Vincent. Pour aller dans votre sens précisément, dans ces appartenances qui se disent dans un rapport à l'autre, moi par exemple, Pierre, j'ai toujours trouvé assez intéressant la façon dont Paul se présente lui-même dans le début de ses lettres, dans ses voyages. Il adapte en fonction de l'interlocuteur, c'est peut-être le côté caméléon que vous évoquiez dans une précédente émission, au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, etc. Il y a des choses communes et puis parfois des petites choses différentes. Dans votre chronique, Vincent, vous faisiez référence à un verset qui est au cœur de la pensée de Paul concernant cette identité. Eh bien, nous allons l'écouter dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28. Cette fois-ci, lu par Emmanuel ARM.
Il n'y a donc plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un en Jésus-Christ.
Alors c'est un verset, Pierre, qui résonne comme un slogan, mais qui semble, bon, un peu contestable, non ?
C'est un très beau slogan, le fameux « ni-ni »,
oui.
qui vient d'une épître de tripes, de colère, et où on a l'impression que Paul sort ce qu'il a au plus profond de lui-même, avec notamment ce « ni-ni », qui est totalement vrai et totalement faux.
C'est ça, voilà. C'est ça, exactement.
C'est totalement faux parce que je suis, et à l'époque... On est quelque chose, hein. On est soit juif, soit grec, on a un statut social, esclave ou homme libre, on est homme ou femme au premier siècle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'économie d'une certaine réalité incarnée qui me définit sur une terre, sur une économie, dans une relation aux autres, dans une religion.
Et puis on l'a vu dans la première émission, oui. On est esclave,
on
aussi.
On peut être esclave.
Et puis il y a les maîtres.
Et puis il y a les maîtres, et puis il y a le statut de la femme au premier siècle, c'est défini.
Aussi, oui.
Et puis, il est préférable aussi d'être l'un ou l'autre. Il y a des prières au premier siècle qui disent « Mon Dieu, je te remercie de ne pas m'avoir fait femme, barbare ou animal.
Ouais. »
Voilà.
On ne dirait plus la même chose aujourd'hui.
Non, on dirait plus la même chose aujourd'hui. mais attention, est-ce que je ne suis pas aussi très, très, très fier d'être français, d'une appartenance, voilà.
Hein. Chaque époque a sa manière de revendiquer des choses.
Alors, c'est un slogan qui est totalement faux, mais en même temps, qui est très très vrai, parce que ça nomme les réalités, ça dit les choses, et quand on met des mots sur les choses, ça permet de les voir, de les comprendre, de les habiter, peut-être de les transformer. Et puis en même temps, c'est un verset qui est, un slogan qui est très vrai, parce qu'il affirme une conviction de l'apôtre Paul et peut-être d'une tradition chrétienne, qui est que aux yeux du Dieu de Jésus-Christ, ce qui fait la valeur, la reconnaissance d'une personne, ce ne sont pas ses appartenances. Un être humain est reconnu et Dieu a un regard favorable, bienveillant, donne une confiance, qu'on soit juif ou grec, homme ou femme, esclave ou homme libre.
Nous sommes tous enfants de Dieu.
Voilà. Alors, dans le langage familial, enfant.
Voilà.
Voilà.
C'est ça.
Alors c'est donc un verset qui amène à se frotter, qui amène à entrer dans une réalité, puis à voir comment elle existe, comment elle explose, comment elle habite, comment. Pourquoi Nini ?
Alors Jésus interroge aussi l'identité, oui. D'ailleurs, avec ses apôtres. Il veut savoir comment on parle de lui.
Oui.
Et il va même préciser la question en leur demandant « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»
Oui.
Donc c'est important.
C'est important parce que c'est aussi la parole de l'autre qui me définit.
C'est ça. Voilà.
Moi, je me souviens que lorsque j'étais adolescent, une fois, un adulte m'a dit « Ah, mais toi ?» Tu as l'air d'être protestant. Et c'est la parole de l'autre qui va me définir. Mmh. Hein, la parole du père ou de la mère qui dit « tu es mon fils » ou « tu es ma fille ». Par exemple, au moment du baptême de Jésus, c'est la parole qui dit « tu es mon fils », c'est-à-dire la parole va instituer, reconnaître l'autre. Ça, c'est très important.
Le ciel qui s'ouvre, là, d'une certaine
façon.
Qui
s'ouvre et l'autre, dans son regard, dans sa parole, qui peut se tromper aussi. Ouais. Me permet de me construire et de me reconnaître aussi.
Ouais. Bon, on avance avec un autre texte biblique que vous avez choisi dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, les versets 21 à 23, puis les versets 26 à 29, et je vous laisse nous les partager.
Voilà, on est dans un chapitre, on sent un peu de la chaleur et des tripes de Paul, ça lui arrive de revenir, c'est pas que un grec qui pense de manière rationnelle et argumentée. Voilà ce qu'il écrit. Ce qu'on ose dire, je parle comme un fou. Je l'ose, moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la descendance d'Abraham, moi aussi. Ministre du Christ, je vais dire une folie, moi, bien plus. Dans les fatigues, bien davantage. Dans les prisons, bien davantage. Sous les coups, infiniment plus. Dans les dangers de mort, bien des fois. J'ai reçu 5 fois 39 coups, 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait un naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme, voyage à pied, souvent, danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères, fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent. Froid et dénuement, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible. Qui tombe, que cela ne me brûle. S'il faut faire le fier, je mettrai ma fierté dans ma faiblesse.
On pourrait dire que Paul fait ses comptes d'une certaine façon.
Oui, les catéchumènes disent il se la pète. Hein, voilà, manière de dire je suis faible, c'est une manière de dire je suis petit, je suis faible, j'ai un avorton.
Mais voilà.
Voilà. Bon, mais on sent derrière du vécu, on sent des blessures, on sent des réalités, on sent du terrain, de la transpiration, des blessures.
C'est un très beau texte qu'on pourrait gratter en profondeur. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Il y a une histoire derrière, on sent. Hein, et peut-être qu'il exagère un peu, mais on sent que ça ferraille, ça polémique. Hein.
Et puis, il y a 3 appartenances qui apparaissent.
Il y a les 3 grandes appartenances de Paul. Il est juif, il est grec, il est romain. Vous voyez qu'il a au moins 3 appartenances, plus tout le reste. Hein, voilà.
Et ça veut dire quoi, ces 3 appartenances?
C'est énorme. Juif, ça veut dire qu'il est pharisien, pieux, né à Tarse, il était instruit, il respecte la loi de Moïse, il cite souvent la Torah et les prophètes. Hein. Il a une très très grande culture, il est attaché à tout cela, au monothéisme hébraïque, en résonance avec les rites religieux. Il a aussi une certaine attachement, une correspondance avec le temps, avec l'histoire, le culte exprime tout cela. Tout cela, c'est ce juif très important. Et puis en même temps, il est grec. Hein. De langue grecque, il écrit en grec, il est contemporain du philosophe Philon d'Alexandrie, qui était aussi ambassadeur de la communauté juive d'Alexandrie à Rome. Il est imbibé, il admire cette écriture, cette philosophie, il maîtrise la rhétorique grecque parfaitement. On sent, est-ce qu'il a été à la même école que Quintilien, qui était un grand enseignant du 1er siècle, hein, qui a écrit l'institution oratoire. Il maîtrise la philosophie, la raison, il est en lien avec l'harmonie du cosmos, une langue écrite, parlée, un savoir rigoureux, tout ça c'est sa culture. Et puis il est aussi latin, il est romain. Comme son père. Il connaît le droit. Il sait faire appel aux tribunaux romains. Ça va lui sauver d'une situation difficile. Il sait faire appel à cette culture de l'administration, du droit, de la cité dans l'Empire. Il a une appartenance juridique. Il est citoyen de cet Empire et il est les 3. Juif.
Et on sent qu'il est fier de ça. Il y a une identification qui passe par ces lieux.
Oui.
Mais en même temps, ce sont, on le comprend, des lieux d'échec, de tension, de souffrance.
Voilà. mais vous avez bien dit, c'est à la fois de la fierté, ouais. mais aussi de l'humilité, de la blessure et des échecs. Les appartenances, ce sont aussi des lieux de mon histoire, d'échecs, d'erreurs ou de blessures. Juif, il est persécuté, il est en tension, il est en conflit permanent avec des chrétiens qui ont des conceptions qui ne sont pas les siennes. On sent qu'il est en échec. Hein, voilà. Avec la philosophie grecque aussi, à Athènes, on se moque de lui. On le traite de fou. Et puis à Rome, il est citoyen romain. Il va être protégé, il va être jugé, mais il va être aussi exécuté à Rome. Hein. C'est-à-dire que
d'ailleurs, on ne sait pas trop quoi faire de lui en fait. On sait pas à Rome. Trop.
Voilà. Alors et puis ça finit mal. Dans la campagne, on veut pas trop toucher un citoyen romain, donc on l'envoie à Rome. Hein. Le Palestinien juif Jéju, on exécute en 48 heures. Un citoyen romain, attention. Hein, attention. Ouais. Et vous voyez que ces trois grandes appartenances, qui sont des lieux d'enracinement, de construction, de fierté, sont aussi des lieux d'échec, des lieux de blessures chez Paul.
Je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui évoque très bien ce questionnement identitaire. C'est Guy Béard qui chante « Qui suis-je ?»
Je suis né dans un arbre, et l'arbre on l'a coupé. Dans le soufre et l'asphalte, il me faut respirer. Mes racines vont sous le pavé, chercher une terre mouillée. Qui suis-je? Qui puis-je? Dans ce monde en litige. Qui suis-je? Qui puis-je? Dans ce monde en émoi. On m'a mis à l'école, et là j'ai tout appris. Des poussières qui volent à l'étoile qui luit. Une fois que j'ai tout digéré, on me dit le monde a changé. Qui change, qui rend.
Guy Béard, qui suis-je? C'est toujours assez intéressant de mettre des artistes contemporains en lien avec des vieux textes et finalement qui disent les mêmes choses. Concrètement, qui suis-je?
Alors, qui suis-je dans la suite de Paul? On a vu ces trois appartenances, juif, grec, latin et ce vécu. Et moi, qui suis-je?
Ben oui. Ah,
qui suis-je?
Vous nous avez donné quelques éléments, mais on pourrait peut-être aller
je
plus loin.
Je suis normand par mon père, je suis pied-noir par ma mère, je suis de Provence d'adolescence, je suis des Cévennes d'adoption très longtemps, du sud-ouest du côté de Toulouse par mon travail, je suis aussi d'Allemagne par l'université par mon épouse, d'Israël et de Palestine par mes études, la Lorraine du Sud, l'Alsace-Moselle actuellement, les Pyrénées, la vallée d'Aspe, qui est la plus belle vallée de France et de Navarre. Et tout ça se met dans une manière de vivre, mais aussi dans le culinaire.
Ah oui.
Il faut bien le dire. Ah c'est oui, les oui. Pélardons des Cévennes, la Rouelle du Tarn, le Cabécou d'Autan, le Comté du Jura, le 24 mois. Attention, le Münster d'Alsace, mais aussi le poivron à l'ail de Provence, la chouchouka d'Algérie, oula. Les menele et les bredele d'Alsace actuellement. Tout ça définit une personne, une appartenance, c'est du vrai. Bonheur. Et c'est comme ça qu'on se construit grâce à l'autre, grâce aux rencontres. Et vous?
Alors moi, Italo-Bourguignon par ma mère, alors déjà là, niveau culinaire, il y a plein de choses, les pâtes, les pizzas, enfin voilà, tout ce qui vient d'Italie, qui se mélange au bon bœuf bourguignon, à de très bons fromages, là en Bourgogne aussi, de bons vins, alors moi j'aime bien un bon verre de vin, Pierre. et puis le côté charentais, la mer, par mon papa, je suis né à Rochefort, et donc tous les produits de la mer, les fruits de mer, le poisson, la chaudrée fourrasine, enfin voilà, il y a plein de très bonnes choses. Dans mon livre, la couverture, puisque vous parliez d'origine algérienne là, avec la tchakchouka, c'est ça. Moi, c'est la coca frita par ma maman, donc cette tourte, la coca avec à l'intérieur cette compotée de poivrons, tomates et plein de bonnes choses. Vincent, peut-être vous aussi en quelques mots.
Moi, je suis belge de Belgique, plus loin, on va dire, vraiment des Ardennes belges, donc du terroir. Mais je suis aussi un enfant de Bruxelles, donc il y a la multiplicité des cultures. Ça résonne très très fort à Bruxelles comme ça. C'est déjà un voyage en soi. Et puis, je suis né dans une famille de philosophes, de musiciens et d'enseignants. Donc, il y a quelque chose qui tisse évidemment la trame de qui on devient. Et maintenant, je suis amoureux d'une Italienne. Oui. Donc, il y a quelque chose qui évidemment vient encore compléter ça. La famille, la table aussi, et tout ce que ça veut dire comme voyage.
Et moi,
au
marié
quotidien.
Avec une Antillaise, une Martiniquaise. Voilà, voilà. Donc, il y a aussi de l'exotisme.
Et vous voyez que ces appartenances sont aussi des appartenances religieuses. Parce qu'il n'y a pas un chrétien comme ça. C'est-à-dire que je suis aussi dans une histoire, dans une culture protestante, celle du débat, l'insouciance de la foi, la culture du chant, du débat, l'attachement aussi aux valeurs de la République. Tout ça définit aussi ma manière d'être chrétien, qui n'est pas unique, qui n'exclut pas les autres,
oui.
Mais j'ai ma place à occuper.
Alors vous m'avez évoqué Pierre Badinter dans la préparation oui. de l'émission, parce que lui parlait d'appartenance oui. aussi de façon intéressante.
Alors il est une fois intervenu, et c'est resté dans ma mémoire, il dit l'identité au singulier se définit pour lui par les mots de communauté. Donc une communauté de culture, une communauté de valeurs, une communauté de destin. J'aime bien les trois. Une communauté de culture, c'est des langues, c'est des écrivains, c'est une histoire, c'est aussi la princesse de Clèves, peut-être Victor Hugo, mais sans réduire et sans exclure.
C'est ça qui est intéressant. Ces appartenances disent des choses, mais elles ne réduisent pas l'identité à quelque chose.
Il y a tout un ensemble où je suis plus ou moins, et où d'autres sont et apportent. Hein. Et puis c'est une communauté de valeurs, alors lui il définissait par liberté, égalité, fraternité, laïcité, en tant que protestant je m'y retrouve bien, qui est à investir, à habiter, à colorer, et puis communauté de destin aussi, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Alors lui il était attaché à l'Europe, ça résonne chez moi aussi de manière particulière, et nous sommes aussi liés par cette construction commune, tout n'est pas figé.
Delphine Horvilleur dit quelque chose de très beau à ce sujet.
Alors, j'aime bien, elle dit ou elle écrit à un moment donné que ce qui la définit, elle, en tant que juive, ce n'est pas tant qu'elle ait des parents juifs, mais qu'elle a des enfants juifs. C'est-à-dire que l'identité ou cette appartenance religieuse n'est pas seulement une appartenance d'origine, de passé, mais elle est aussi une appartenance qu'on construit pour l'horizon. Pour l'avenir.
Eh bien, c'est avec ces magnifiques mots que nous allons nous séparer. Pierre Magne de la Croix, rendez-vous le mois prochain, le 6 avril, pour une dernière avec Paul, peu de temps avant le temps de Pâques, un moment privilégié pour évoquer la résurrection au regard de l'apôtre. Merci Vincent aussi pour votre éclairage et celui qui viendra dans cette prochaine émission d'avril. Et on se quitte avec une chanson contemporaine, la chanteuse Louane, qui justement, elle aussi, dans ce titre « La fille », évoque sa propre quête d'identité.
C'est qui la fille devant qui regarde le miroir? C'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que je sais pas vraiment qui elle est, qui elle est. C'est qui la fille, qui la fille? Si tu la croises, dis-lui que je la cherche partout. Si tu la croises, dis-lui que je sais qu'elle tiendra le coup. Je crois que tu sais pas vraiment qui elle est, qui elle est. C'est qui la fille, qui la fille?
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Mathieu Leroux à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, comme tous les premiers dimanches du mois à 10h dans Présence Protestante, votre magazine Ma Foi, et ici sur France Culture à suivre. Vos informations qui seront suivies de la belle émission de Marc-Alain Wacknin, Talmudique, en vous souhaitant un très bon dimanche à chacune et chacun.
Je sais, c'est que je sais pas vraiment qui je suis. La fille c'est trop d'énergie, pourtant quand vient le soir, la fille s'effondre, a peur de rester seule dans le noir. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille, qui la fille? Mais la fille rit la journée, tout le monde dit qu'elle est chiante. Mais la fille rit, s'en fout, car elle sait qu'elle est vivante. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? C'est moi la fille. Et pour tous les gens que j'ai perdus, pardon, tout s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est le moment de donner plus de moi, plus de moi. pensent que j'étais quelqu'un d'autre. Je suis juste vraiment plus que ce que tu vois. Faut pas que je pense que c'était ma faute. Parfois j'ai oublié d'être moi. Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité.